your papes, like inhalation of vape. Her nasal passage filled with money, and it's massive.
Now can't you realize we're down in the slum? Can't get off the bump. Itchy, itchy, and it's getting well, well sticky.
Chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Génération Sport, une émission, une nouvelle invitée ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu quelqu'un dans les studios de Radio G. Et ben, c'est chose faite ce soir. Je vais d'abord introduire l'équipe qui m'accompagne ce soir. Une fois de plus, pas de Florian, pas de Cédric non plus, on leur souhaite, on leur passe le bonjour. Mais avec moi du coup, Mathéo, salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous.
Ça va bien ?
Eh ben ça va très très bien. Écoute, je ressors du château d'Angers, donc petite visite culturelle. Ça faisait longtemps que je m'étais pas reconnecté au château, donc c'était très très bien. Et puis ouais, on est en petit comité, mais on reste le comité soudé, le comité voilà qui va nous permettre de faire cette belle émission avec l'homme qui est à ma droite, qui va s'occuper de l'interview et de ma place habituelle.
Voilà, parce que c'est Amaury qui est avec nous ce soir, qui s'occupera de l'interview juste après. Salut Amaury.
Salut Faustin. Moi ça va très très bien aussi. J'ai vu qu'une belle semaine, je sais pas si vous avez pu voir, mais j'ai pu interviewer Johnny Wilkinson, faire une mini interview de Johnny Wilkinson et un petit documentaire dessus. Donc ça a été magnifique. Donc voilà, et après une interview sur un sport que j'aime bien en plus qui va arriver.
Et oui, parce que ce soir on reçoit Adéloïse qui va nous parler du coup de triathlon. Salut Adéloïse.
Salut.
Voilà, on reviendra sur l'interview juste après les actualités locales. On va commencer directement par le basket et l'UFAB qui signe une victoire importantissime pour les joueuses d'Aurélie Bonan contre l'ASVEL. Une victoire sur le petit score de 59 à 53 qui leur permet de presque assurer leur sixième place. Et elles peuvent même aller chercher la cinquième. On aura un match dimanche contre Charleville-Mézières pour justement aller chercher cette cinquième place, c'est l'avant-dernier match de la saison avant les playoffs. Pour le AB, cinquième victoire d'affilée avec cette fois 80-61 contre Avignon avec un match bien géré de A à Z. Ils sont seuls en tête du classement, prochain match ce soir contre Charleville, Mézières également. Et pour Cholet maintenant, là aussi, une victoire contre La Rochelle, 83-77, et Monaco ayant perdu contre l'ASVEL, les Choletais sont seuls à la première place du classement de Betclic Elite. Le match prochain sera demain, un match là aussi importantissime pour la demi-finale aller de Coupe d'Europe contre Thessalonique, le club grec. Voilà pour ce qui est du basket. On va parler rapidement des Ducs Amaury.
Oui, les Ducs d'Angers qui ont gagné, c'était mercredi dernier contre Bordeaux, victoire par un but d'écart contre Bordeaux. Exactement. J'ai plus le score en tête.
C'est 2-1.
2-1, voilà. Mais surtout 4 victoires à 0 sur l'ensemble de la série, et donc une place en finale qui est obtenue, et un remake de la finale de Coupe de France contre Grenoble. Donc prochain match le 3 avril, si je ne dis pas.
C'est 3 ou 4 avril.
3 ou 4 avril à Angers.
3 et 4 avril
à Angers, et la billetterie vient d'ouvrir, c'est Cédric.
Non, c'est à Grenoble d'abord.
Oui, les premiers matchs à Grenoble, mais après à Angers, les matchs 3 et 4 avril, la billetterie vient d'ouvrir il y a 6 minutes, nous a dit Cédric, voilà. C'était à 20h.
Voilà, donc on espère que le résultat de cette finale sera la même qu'en Coupe de France, et que Angers qui soulèvera un trophée. Est-ce que Mathéo, t'as quelque chose à dire sur cette finale?
Bah écoute, on en attend beaucoup, forcément. Ça peut être une première victoire pour les Ducs en Ligue Magnus. Ce serait un moment assez exceptionnel de faire le doublé, en plus, face à Grenoble, qui est un peu la bête noire de toutes les équipes en Ligue Magnus. Donc, ouais, on attend beaucoup de cette rencontre. On espère qu'on va réussir à mettre un 4-0 aussi à Grenoble. Ça serait assez incroyable.
On l'espère.
Voilà, on est peut-être un petit peu trop optimiste aussi, mais il faut l'être, finalement. Ah. Et on espère juste revenir aussi avec le titre, que ce soit un 4-3, un 4-0, peu nous importe.
Voilà, d'accord. Faut avoir confiance en soi pour aborder cette finale. Maintenant, on va passer au Scorand, à Maury. Bonne nouvelle.
Et oui, la première victoire de la saison. On est le 25 mars et on peut enfin dire première victoire de la saison pour le Sco Handball. Et en plus, quelle victoire, 30-21 face à Sarrebourg. Un match maîtrisé du début à la fin. Une grosse défense angevine, beaucoup de pertes de balles en face. Des pertes de balles qui, depuis le début de saison, ont causé beaucoup de malheur au Sco. Mais cette fois-ci, c'est eux qui ont bien défendu et qui ont récupéré beaucoup de ballons, marqués en contre-attaque. Donc à la mi-temps, 19-12, hein, l'avance était déjà là. 43e, 25-15, plus 10. Et derrière, on a même pu faire jouer les jeunes. Une belle ambiance dans la salle, évidemment. Maintenant, le plus dur, ça va être d'enchaîner, de continuer pour le SCO, pour aller chercher ce maintien. Et dans le cadre sportif, évidemment, on a déjà parlé de cet extra sportif au handball. Mais voilà, aller chercher ce maintien par les points et continuer ces belles performances auxquelles on a le droit depuis quelques semaines, quand même.
C'est encore possible un maintien, ou ça relèverait de l'exploit?
Ça relève de l'exploit quand même. Il y a plusieurs matchs de retard pour l'instant, mais au vu du niveau de jeu affiché depuis quelques temps, pourquoi pas?
Bah super. Alors on le souhaite pour le SCO Hand. Un autre SCO qui aura besoin de se maintenir, c'est le SCO Foot.
Oui, exactement. Face à un adversaire, un concurrent direct pour le maintien, c'est assez bizarre de le dire en parlant du Stade Rennais. Mais c'est le cas aujourd'hui, puisque Rennes a seulement 2 points d'avance sur le SCO, 12e contre 14e. Donc c'est une rencontre bien évidemment qu'il faut gagner. Le SCO est sur une très mauvaise série, 5 matchs sans victoire de suite, 2 nuls et 3 défaites. Les 3 derniers matchs d'ailleurs, le SCO a été défait. Donc il faut impérativement gagner. Rennes reste sur une dynamique assez aléatoire. C'est vrai que depuis l'arrivée d'Habib Bey, on se dit que Rennes a su remonter la pente. C'est à la fois vrai et faux. Donc il va falloir faire les bons choix, remettre la tête aussi à l'endroit, parce que c'est un petit peu le défaut du SCO depuis ce match contre Saint-Etienne, ce match nul, et puis cette défaite en Coupe de France aussi. Donc voilà, on place quand même beaucoup d'espoir sur cette équipe. On sait qu'elle est capable de faire des résultats contre des gros, parce que Rennes reste un gros. Donc c'est une rencontre ultra importante, et ce sera dimanche à 17h. 15.
Exactement, c'est à Raymond Coppa.
Non, c'est à Rennes.
C'est à Rennes, bah, dommage. Mais voilà, on suivra évidemment ça, et on reviendra sur ce match la semaine prochaine, en espérant que le SCO arrive à se relever.
3 points impératifs pour repasser devant le Stade Rennais.
Exactement, et pour se sauver un peu de du maintien, même
et
si
du calendrier qui arrive, qui va être assez horrible.
Voilà, qui est, on ensuite s'enchaîne avec Paris. Plus tard dans le calendrier, il y aura Marseille.
C'est ça, joue Lille aussi, et puis finit par Lyon. Lyon qui devrait jouer logiquement le jeu de la Coupe d'Europe jusqu'à la dernière journée.
Voilà.
Donc qui jouera potentiellement une place en Champions League, en Europa League ou en Conference League. Donc ça sera un match sur lequel il faudra peut-être faire une croix pour se maintenir.
Donc voilà, faudra pas attendre la dernière journée, c'est ce que tu nous dis.
Exactement.
Donc victoire impérative
le
ce week-end.
Le supporter lyonnais qui parle.
Non, j'ai été assez objectif quand même. J'ai dit Conference League
complètement.
Encore voilà, si nous a sorti la Champions League.
Ce sera deuxième à la fin.
Amaury aura fait les yeux rouges. Voilà pour ce qui est de l'actualité locale. Rien à rajouter, les gars.
Non, on est bon.
Parfait, bon, on va pouvoir passer directement à l'interview et je te laisse le lead, Amaury.
Et oui, une interview avec Adéloïse Olive, membre du SCO Triathlon, que l'on remercie déjà d'être présente avec nous au milieu d'un programme qui doit être assez chargé. Mais ça, les auditeurs risquent de le comprendre au fur et à mesure de l'interview. Et donc, on va commencer par une question très simple, traditionnelle dans l'émission. C'est quoi le triathlon ?
Le triathlon, alors c'est une épreuve de trois disciplines. On commence par la natation, on enchaîne avec le vélo et on termine avec la course à pied sans arrêt de chrono.
Et donc il y a plusieurs formats du coup.
Ouais, c'est ça. On passe du XS au S, au M, au L et XXL après le Graal.
Le Graal, l'Ironman. Et ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc avant d'aller sur cet Ironman, on va parler un petit peu de toi, de ton passif sportif. J'ai cru voir qu'avant le triathlon, t'as pu faire 4 ans d'équitation. J'ai été chercher. Hein.
Très loin, ouais.
Est-ce que t'as fait d'autres sports aussi avant et comment t'es arrivé au triathlon après ?
Non, j'ai pas fait d'autres sports à part au collège où on touche un petit peu à tout, mais non, j'ai fait 4 ans d'équitation et après tout de suite au triathlon. Je vais pas vous mentir, j'ai demandé à ma mère ce matin comment je suis arrivée au triathlon et elle m'a répondu, en fait c'est mon père qui a fait la première édition du triathlon d'Angers. Ça date un petit peu et on a tous fait avec mes frères et sœurs la petite animation des enfants où on court un petit peu, etc. Et juste après ça, on les a un petit peu tannés pour s'inscrire au triathlon. Et on s'est inscrit alors avec ma sœur à l'ASPTT. On est arrivé, je me souviens, on était que 2 féminines dans l'école de triathlon. Il y avait que 5 petits gars à côté, c'était vraiment génial.
Et donc, quel souvenir on en garde aujourd'hui de ces premières années de triathlon, quand on était petit
C'était très drôle. Ouais, franchement, c'était génial. On se faisait plein de copains. On s'était juste là pour s'amuser avec les copains. On n'était pas du tout dans la compétition. Et, non, c'était très sympa.
Et comment ça se passe quand on est jeune aujourd'hui? Évidemment, il y a des jours, on double les sports, surtout sur une préparation Ironman, j'imagine. Mais à l'époque, quand on est petit, c'est 3 entraînements semaine, l'un de chaque sport.
C'est ça, pas plus.
Ouais. Les gars, si vous voulez réagir aussi, vous pouvez, hein, évidemment.
Ouais, moi je trouve ça assez étonnant quand même de lier 3 sports comme ça quand on est jeune, justement. Ça n'a pas été trop difficile au début de tenir ce rythme?
Non, parce qu'on n'avait pas beaucoup, comme aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup d'entraînement et on y allait une heure par-ci par-là pour rigoler. C'était pas aussi intense qu'aujourd'hui.
Ouais, c'était du plaisir avant tout.
Ouais, c'est ça.
Alors pour revenir sur ton passé sportif, on va avancer dans le temps. J'ai pu voir que tu as aussi fait un petit peu de trail.
Ouais, bah, j'en fais surtout l'hiver pour combler un petit peu la saison de triathlon qui est assez calme. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai commencé il y a 2 ans, je crois. Et ouais, j'aime bien. En hiver, ça.
J'ai vu Trail des Templiers, celui de Sancy, j'ai cru voir.
Ouais, c'est ça.
Et que des belles performances aussi.
Sancy, ouais, j'avais gagné dans ma catégorie. C'était mon premier trail. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, en espoir, on n'est pas beaucoup. Donc j'ai continué à faire, c'était 25-30 km. Et à chaque fois, je gagnais en catégorie. Après, je suis arrivée aux Templiers, j'ai pu gagner. On va pas se mentir, il y a du level. Mais non, c'est super intense. C'est vraiment génial.
Et qu'est-ce que tu retrouves que tu retrouves pas au triathlon, peut-être dans le trail qui te plaît particulièrement?
Dans le trail, je trouve il y a plus de plaisir, on prend plus de temps. Le triathlon, on est focus, on regarde le chrono, les bras, on transpire vraiment. Et là, les trails que j'ai fait, j'y allais vraiment pour le paysage, pour kiffer vraiment l'espace.
Et donc, Donc le triathlon, le trail. J'ai aussi pu voir les 24 heures du Mans en vélo.
Oui.
Des défis comme ça, il y en a eu d'autres ou pas?
Non, là c'était vraiment exceptionnel. C'est un autre des quatre qui m'a appelé pour dire il nous manque une fille dans l'équipe. J'ai vu que tu faisais du vélo, pourquoi pas? Et c'était vraiment génial. Franchement, je recommande.
Et cette passion du coup pour les grands défis, parce qu'on va venir juste après à l'Ironman, elle te vient d'où? C'est depuis tout jeune? C'est de famille? C'est propre à toi? C'est...
Non, je pense que c'est de famille. Hein. On est tous un peu à faire des trucs de folie. Mais je pense que c'est vraiment depuis deux ans, je pense. On y reviendra, je pense, tout à l'heure du pourquoi.
On laisse le suspense. On va arriver du coup sur cet Ironman. J'ai vu que l'année dernière, tu avais déjà fait un triathlon format L. Donc,
Half Ironman. J'en ai fait deux.
Deux.
Ouais.
Comment tu les as vécues? Et cette première expérience, c'est vraiment longue distance?
Le premier, très bien. Par contre, au niveau de la distance, entre le S et le M, je trouve qu'il y a moins d'écart. Et là, passer sur du L, c'est vraiment très très long. Et j'ai adoré le premier. C'était vraiment chouette. J'avais une bonne ambiance, etc. Et le deuxième, c'était en Belgique. Et là, je l'ai moins travaillé. Et ça s'est bien senti sur le semi à la fin. C'était très très long.
Pour nos auditeurs, un format L, c'est donc 1000, tu me coupes si je dis une bêtise, hein, 1900 mètres de natation, 90 km de vélo, et ensuite un semi-marathon, donc 21 km en course à pied, donc à enchaîner. Et combien de temps à peu près pour toi en tout cas?
Le premier, j'ai fait 5h45, et le deuxième, j'ai mis un petit peu plus de temps, je suis aux alentours de 6h20 à peu près.
Ok.
Ouais, j'ai mangé sur le semi.
Et ça reste des performances. Je pense qu'ici, aucun de nous est capable d'aller.
On le fait pas. Hein.
Déjà, on est incapable de faire un semi-marathon, donc comme ça, c'est déjà réglé.
Oui, il passe. Bon, il passe.
Bah, excuse-nous.
Peux-tu nous, donc, maintenant nous parler de tes dernières années de triathlon qui t'ont amené déjà à ce format L l'année dernière et aujourd'hui à cet Ironman? Comment on en est venu à monter ces distances pour au fur et à mesure aller sur les longues distances du coup?
Alors j'ai pas fait beaucoup de S, je me souviens pas en avoir fait beaucoup. Après je suis montée sur le M, je voulais me lancer un petit défi et quand on passe du S au M, moi j'avais l'impression que c'était impressionnant vraiment. Ouais, je vais dans la cour des grands, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment pas facile, mais j'ai adoré la distance. On peut mettre du rythme et en même temps on peut se poser un petit peu. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas tester le L qui est un tout petit peu plus un peu de kilomètres, mais je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai tenté, j'en ai fait un, j'ai bien aimé, j'en ai fait un deuxième que j'ai moins aimé, mais l'Ironman je me suis inscrite avant mes L sur un petit coup de tête, je me suis fait un peu influencer par un ami de mon père qui était sur place, il m'a dit ouais il y a des QR codes, on a des prix un petit peu moins chers que quand ça va sortir. Et il m'a dit j'envoie un message à ton père, etc. Et 10 minutes après il me dit ton père il s'inscrit. Et là dans ma tête ça trotte et je me dis bon je vais sur la page, je regarde, bon allez je m'inscris.
Ah, donc le papa le fait aussi.
C'est ça, et mon petit frère aussi qui le fait.
Le petit frère aussi, donc ouais. Vraiment événement de famille.
Ouais.
Donc, tu me disais en off aussi, de toute manière, le triathlon dans la famille, c'est quelque chose qui a toujours pris une très grande place.
Oui.
Il y a...
Ma mère, co-présidente du SCO Angers Triathlon.
Okay.
Mon père qui est licencié au club et qui entraîne de temps en temps. Et mon frère qui a changé de club, mais qui entraînait aussi avant au club.
J'ai aussi vu sur... Les performances n'étaient pas tout mal.
Ouais.
Donc maintenant, on en arrive à l'Ironman. Première question, comment tu structures un entraînement pour l'Ironman entre la natation, le vélo, la course à pied? Ça demande, j'imagine, beaucoup de discipline. Comment on structure tout ça?
Alors moi, toute seule, je sais que j'aurais pas pu le faire, donc j'ai fait appel à un entraîneur. C'est un triathlète professionnel, donc il sait exactement de quoi il parle et il sait faire attention entre mon travail. Parce que je travaille à côté en 35 heures, il faut allier les deux, et si je suis fatiguée, il enlève des entraînements, mais moi toute seule, j'aurais pas su gérer tout ça.
C'est ce qui amène à la blessure.
C'est... Exactement.
Mais du coup, ça s'appelle comment ton entraîneur?
Shenzino.
La dédicace est passée. En lisant un petit peu tes posts, j'ai cru voir que tu préférais le vélo et la natation à la course.
Complètement.
Pourtant, il y a eu le trail à côté. Ça m'a un petit peu étonné à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait ces préférences?
Alors, déjà, en triathlon, on est sur du bitume. Moi, courir un semi sur bitume ou un marathon sur bitume, c'est non. Je préfère faire 46 bornes dans les Templiers, avoir plein de montagnes, etc. Et je pense que j'ai trop fait de courses à pied pendant un hiver et j'avais plus du tout envie d'aller courir, même encore aujourd'hui. Hein, il faut bien me motiver pour aller courir.
Mais quand c'est dans la prépa, on le fait.
Ouais, on n'a pas le choix.
Et pour revenir sur la structure, du coup, c'est dans une semaine typique, on va essayer d'aller là-dessus. C'est d'entraînement, c'est combien d'heures, c'est combien de temps passé sur le vélo, à la piscine. Est-ce qu'il y a des enchaînements? On travaille aussi l'enchaînement entre plusieurs disciplines. Comment ça se passe?
Ouais, alors c'est jamais les mêmes semaines parce que moi j'ai souvent des semaines à 41, après elles passent à 16, donc ça change vraiment tout le temps. C'est surtout le dimanche que j'enchaîne vraiment. Je fais une grosse sortie vélo, après j'enchaîne un petit peu avec la course à pied. Mais ouais, c'est jamais la même chose, mais on peut vite monter à 10h, 10, 11 si je fais tout. On est dans ces eaux-là.
Okay, donc en plus, évidemment, du travail à côté.
En plus,
donc,
35 heures, ouais.
Moi, j'avais une question. Est-ce que pour préparer un triathlon, on court un triathlon?
Non. Je fais jamais les distances 180, je le fais pas le marathon, je vais jamais le faire. En fait, c'est comme une prépa marathon, je pense qu'il faut faire au moins le kilomètre dans la semaine, mais faire un marathon pour préparer un marathon, non.
Et tu fais pas non plus l'enchaînement justement des trois disciplines l'une après l'autre dans un entraînement?
Les trois, c'est rare. C'est plus deux à chaque fois et c'est jamais la distance de l'Ironman.
Ok. Et on a des triathlons par contre qui sont calés, par exemple un M, je sais pas, ou un au milieu de la prépa.
Ouais, j'en ai deux avant l'Ironman. J'ai un half et j'ai un half, mais c'est swim bike. En fait, je fais la distance que en natation et en vélo et après je cours pas le semi.
Ok.
C'est un bon exercice, pas trop fatigant.
Oui, parce que derrière, il y a la charge de travail, faut éviter non plus de...
Ouais, faut pas trop...
Et c'est à combien de temps? Parce que l'Ironman a lieu au Sable d'Olonne le 22 juin.
Exactement.
Je suis bien informé. les L, ils vont avoir lieu quand, eux?
Le L, c'est celui de Carcans, c'est le 25 mai, le week-end d'après, et le Swim Bike le 25 mai. Donc c'est un mois avant.
Donc un mois après.
Ouais.
Donc, et ce dernier mois de travail, peut-être pas le dernier mois, mais après il y avoir une phase, j'imagine, où on va diminuer un petit peu avant.
Ou... Ouais, les deux dernières semaines. Ouais, ça va être petit footing, petit un peu plus relâché. Okay.
Je me suis perdu dans mes questions.
Dans ce cas-là, je vais me permettre de poser une petite question sur la préparation pour rebondir un peu sur ce que t'as dit, Faustin, sur le fait que du coup tu fasses jamais vraiment de triathlon en préparation. Est-ce que des fois sur ton mental ça peut jouer cette impression potentielle de d'inconnu un peu d'enchaîner trois épreuves que t'as déjà enchaînées depuis que t'es tout petite, mais il y a quand même cette idée de l'inconnu, cette chose que t'as pas faite depuis longtemps.
Ouais, surtout sur ce format-là, sur les autres formats, c'est plus facile de les faire dans la semaine, mais sur ce format-là, ouais, je sais pas du tout où je vais. Vélo, j'ai déjà fait cette distance, natation, ça me fait pas peur. C'est plus, le marathon, là, je me dis, mais comment je vais faire pour courir autant de kilomètres?
Et justement, comment tu fais? C'est quoi tes techniques pour arrêter d'y penser ou pour passer à autre chose?
Une fois que je prends le départ, de toute façon, j'y vais et je verrai bien si j'ai un problème technique. Mais si j'ai pas de problème technique, j'y vais. Je finirai même à pied en rampant, j'irai. De toute façon, je finirai.
La mentalité qu'on aime.
La détermination, ouais.
J'arrivais justement sur la question de la pression et des moments de doute. Donc, c'est parfait ce que tu nous as fait, Mathéo. D'après, j'imagine que ça demande beaucoup de sacrifices. Que ce soit la vie sociale, parce que entre le travail plus après plus de 10 heures par semaine régulièrement, un équilibre à trouver du coup entre le travail, les entraînements, la vie sociale. Comment on fait?
Je ne sors pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va voir tout le temps du monde en ville. Donc ça me gêne pas trop, c'est plus au niveau de la fatigue, ouais. Quand tu rentres à 19h30 et qu'il faut t'enfiler une heure et demie de home trainer, tu te dis mais comment je vais faire quoi? Et à un moment donné, faut se forcer un petit peu. Alors des fois, je me force mais j'ai pas envie, alors j'y vais pas du tout. Il faut savoir s'écouter aussi et non, vie sociale, bon des fois tu as envie de sortir, tu vois tous tes copains en boîte, tu dis mais je le ferai après le 22 juin, oui. Je m'inquiète pas.
Bon, peut-être pas le 22 au soir, on risque de dormir fort.
Non, le 23.
Mais la semaine suivante et l'été tout à l'heure tu nous as parlé d'un coach qui t'accompagne,
ouais.
donc dans la préparation des entraînements, etc. À côté tu as quelqu'un d'autre pour préparation mentale, peut-être un kiné des fois en fonction d'eux, même au club, est-ce qu'il y a ça, existe ou pas?
Non, pas du tout, on a des intervenants de temps en temps pour gérer les émotions, etc. Mais non, je vois personne à côté. Je sais que mon coach, quand j'ai un doute, je lui dis, il faut être vraiment honnête envers son coach, sinon ça marchera pas. Et il est là pour me rassurer quand j'ai plein de doutes. Mais sinon, non, je vois personne à côté.
Eh bien, juste après, on va pouvoir enchaîner avec une blessure et un accident que tu as eu il y a maintenant presque 2 ans.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais juste avant, Faustin va pouvoir passer sur la petite pause musicale, ouais. si tout est prêt.
Tout à fait, et on va s'écouter Fleur de Zamdan, un artiste qui est nommé dans plusieurs catégories aux flammes. N'hésitez pas à aller voter et voter pour lui, comme je l'ai fait de nombreuses fois.
Mon soleil, ma solitude est polaire. Je mets un manteau ce soir, j'ai froid. T'étais la seule qui pouvait apaiser ma colère. Maintenant t'es loin de moi. Je parle à la lune et elle me raconte les ragots du ciel. Les étoiles parlent que de toi. Dans ma tête j'ai des images d'effroi. Je te vois comme un mirage des fois. Ma baby quand je fume ma weed. Que je me rappelle de ton sourire. J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. À mes yeux t'es la plus belle des fleurs. T'es la plus belle des fleurs. T'achètes un bouquet mais t'en veux pas. Je parle mais tu me comprends pas. Je t'appelle mais tu me réponds pas. Les dinis, je dois vivre sans toi. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Regarde ce que t'as fait de moi. Qui m'a piqué ma fleur. T'achètes un bouquet et l'on veut pas. J'vis dans ma tête depuis des dehors même les oiseaux ne chantent pas.
Voilà, c'était le titre Fleur de Zamdan. Avant de reprendre l'interview, je vous informe que les places pour les matchs 3 et 4 de la finale de Ligue Magnus sont d'ores et déjà sold out. Il faudra espérer un match 6 pour revoir du hockey sur glace et les Ducs à l'Ice Park cette saison. On va tout de suite reprendre l'interview, Amaury.
Avec eux.
Sans le diff, c'est mieux. Autant pour moi.
C'est parfait. Et oui, on parlait donc du coup de cet accompagnement pour l'Ironman, mais il y a un événement qui a eu lieu 2 ans avant, qui est en fait quasiment tout pile avant le moment de l'Ironman. Un accident, tu as été percuté, je sais pas exactement, par une voiture quand tu étais sur le vélo.
Oui, c'est ça qui a grugé son petit stop.
Et donc pas mal de répercussions, fracture de la mâchoire, si vous avez pu voir, le dos touché, dents abîmées, etc. Tu peux nous raconter déjà un petit peu l'accident.
Oui, pas de souci. j'étais en sortie vélo toute seule. C'était le 1er juin dernier. Enfin non, il y a 2 ans. Et j'étais à 9 km de chez moi, je connais très bien la route, c'est assez roulant, c'est une piste cyclable. Et je vois une voiture et je me dis non, elle va pas s'arrêter. Et le temps que je freine, mais effectivement, elle a loupé son stop. J'ai tapé son capot et ma mâchoire a tapé directement sur le bitume après. Donc fracture de la mâchoire et 5 dents cassées, déplacées et une complètement expulsée. Donc pas très joli. Et un petit peu de soucis au niveau du dos encore aujourd'hui, hein, je vois un kiné pour ça.
OK, bah c'est le moment je pense pour passer un petit message. J'ai encore vu ce matin qu'il y a eu un triathlète, je crois, dans la Sarthe qui s'est fait faucher, ou il y a eu un accident en tout cas avec une voiture, et donc ils appelaient à énormément de vigilance parce que lors de chaque sortie vélo quasiment on voit des incivilités sur la route auprès des cyclistes. Donc voilà, un petit point de vigilance pour tous les automobilistes, de faire attention, parce que quand on est sur le vélo, on n'a pas grand-chose pour se protéger. Donc voilà, ça peut éviter des accidents qui donnent lieu à plusieurs mois sans pouvoir être sur le vélo ou à courir, ou même encore pire que ça. C'est plutôt bien.
Et donc, faut dire aux agglomérations d'agencer les routes aussi. Ça peut être une bonne idée.
Les routes en meilleur état et des vrais espaces dédiés aux cyclistes, c'est vrai, c'est pas mal aussi.
Regardez les Pays-Bas, s'il vous plaît.
Et donc, du coup, après cet accident, j'imagine que quelques mois sans pouvoir vraiment pratiquer.
Non, pendant un mois j'ai rien fait, et en fait j'avais un M à l'Alpe d'Huez en juillet, fin juillet, et je voulais le faire quoi qu'il arrive. Si je pouvais courir, je le faisais. Donc je suis remontée sur le vélo tout de suite. Je faisais pas des 40 km, je faisais juste 5, même 8, mais pas plus, et pas sur la route, je prenais que du chemin. Et j'ai repris la natation. Quand les provisoires étaient mises et que tout était cicatrisé, je suis retournée dans l'eau. C'est plus la course à pied qui a beaucoup d'impact, et là pour les dents c'était un petit peu plus gênant, mais j'ai quand même fait ce triathlon après en marchant, mais au moins je l'ai fait.
Alpe d'Huez, ça monte du coup, c'est la montée en vélo du coup.
Ouais,
en fait
c'est ça, les 21 virages de l'Alpe d'Huez.
Sympa.
Génial, franchement.
Ça doit faire mal aux pattes, mais franchement, les paysages et tout, ça doit être, doit être très sympa à faire.
Il y a du monde dans chaque virage, et c'est super comme ambiance. Ouais.
Et donc, cette période, donc tu nous as dit physiquement un peu comment tu l'as vécu, mentalement, tu l'as vécu comment?
Mentalement, c'est très compliqué parce que le sourire sur un visage, ça fait tout. Encore aujourd'hui, 2 ans après, j'ai encore les dents, les provisoires. C'est très dur, mais j'ai vu une psy, j'ai fait ce qu'on appelle de l'EMDR, c'est pour les traumatismes. C'est compliqué quand je prends la route aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une voiture, je m'imagine plein de scénarios. Donc ouais, ça je pense que ça mettra du temps, plus de temps que physiquement.
Ouais, c'est là où je voulais en venir. Sur le vélo aujourd'hui, il y a des gros moments de doute encore.
Ouais.
Prendre la même route par exemple, ça se fait?
Ouais, ça se fait, mais j'ai toujours un petit coup de chaud à chaque fois que je vois ce stop. Et j'ai acheté un Garmin Varia. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une lumière déjà qui prévient
ah
de.
Ah oui, avec le radar qui.
Ouais, exactement. Ça me prévient de chaque voiture qu'il y a derrière moi, combien de mètres, et quand est-ce qu'elle me dépasse. Et je sors plus sans ça maintenant. Même quand il fait jour, je l'allume. C'est plus rassurant.
Et est-ce que cet accident, maintenant, il a changé un petit peu ta manière d'appréhender le sport, le triathlon, les sorties en vélo, etc. Sur l'ensemble, t'as peut-être dit on est petit, quoi, on peut s'arrêter d'un coup.
Ça tient à rien finalement. Quand j'ai vu la voiture, hein, je me suis dit tu dis pas je vais me faire mal, etc. Tu dis c'est fini, quoi. Et après tu remontes sur ton vélo, tu te dis je suis encore là, j'y vais en fait. Je vais faire plein de trucs de fou et je vais montrer que en fait je suis capable et que je vais faire plein de choses.
Et est-ce que finalement cet accident a joué dans la décision de me dire je vais faire un Ironman pour me prouver quelque chose?
Ouais, je pense, parce que c'est quand je voyais mon père faire en brun, j'étais vraiment toute petite et je me disais, mais ils partent toute la journée, ils vont faire un truc de fou, vraiment. Et je me dis, si je suis pas là dans 2 ans, je l'aurais pas fait. Et je vais le faire maintenant. C'est proche de la maison, il y aura plein de copains, la famille. C'est le moment de le faire.
Bah c'est ça, c'est le premier au Sable d'Olonne. Avant c'était un Olf.
Ouais, c'est ça.
Et donc en plus, ça risque de drainer pas mal de monde.
Je pense. J'imagine.
Pour avoir été une fois là-bas sur un Olf à regarder, évidemment,
il y avait déjà pas mal de monde.
Le fait que ce soit un Ironman, maintenant le nom qui est connu par tous quasiment, même ceux qui font pas de triathlon et qui s'y intéressent pas, je pense que ça devrait être cool.
Ouais, je pense.
D'ailleurs, en parlant du coup de cet Ironman au Sable d'Olonne, comment tu te sens là à quelques semaines, mois, on est à trois mois de la course. Comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu te sens prête, même si on ne sait jamais vraiment? Tu me disais tout à l'heure.
Non, on ne sait jamais vraiment. Prête, je ne sais pas parce que je ne sais pas du tout où je vais. Je stresse beaucoup, mais je me dis de toute façon la natation, ça me fait pas peur. Le vélo, je sais que je vais le faire, quoi qu'il arrive, sauf pépin mécanique. Il faut vraiment que je m'entraîne parce que je sais pas du tout changer une roue. Mais c'est plus la course à pied. Mais faut que je me dise dans ma tête, c'est la dernière épreuve. Tu fais 4 tours, tu marches, il y aura plein de monde. Sauf pépin, je pense que ça va bien se passer.
Vu que le parcours, tu parles de 4 tours,
en course à pied, ouais.
C'est un circuit avec.
Ouais, c'est 4 boucles de 10 sur le remblai, donc il y aura toujours du monde. Okay. Heureusement d'ailleurs.
Donc ça motive. Par contre, le fait de repasser 4 fois au même endroit.
Ça, c'est horrible.
Ouais.
Bah en Belgique, on faisait sur le SMIT 3 boucles et je comptais 1, 2. Ah, c'est très très long. Alors 4, ça va
être. Et y a une difficulté un petit peu dedans ou pas? Sur niveau dénivelé ou c'est tout plat?
En vélo, il y a un petit peu de dénivelé. Course à pied, non, ça va être relativement plat.
Okay, donc pas forcément un moment où on se dit, bon, je vais devoir passer dans cette côte-là encore.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Ça va, tout ça, ça va. Tes objectifs, le jour J, c'est terminé, c'est un temps, c'est prendre du plaisir. Un petit mélange des trois.
Je pense pas que je vais prendre beaucoup de plaisir, honnêtement. je pense pas, sauf à l'arrivée, mais pendant la course, non. J'ai pas d'objectif de temps. Je veux pas mettre trop longtemps non plus. Hein. On a toujours un petit objectif dans sa tête, mais je veux juste pas avoir de pépins. Ce qui me fait le plus peur, c'est surtout la nutrition, comment me nourrir, etc. Parce que c'est ça qui va me faire tenir jusqu'au bout. Mais terminé. Surtout.
Mais en parlant de se nourrir, moi, en regardant un petit peu sur tous les sports d'endurance, je vois qu'il faut tester pas mal avant. Tu testes de ce
côté-là? Ouais, il faut tester. Bon, je suis vendeuse running, alors je conseille souvent sur la nutrition. Et effectivement, je rappelle à chaque fois, les gens, ils prennent des gels parce qu'on en voit partout. Mais en fait, c'est une dose de sucre, alors il faut vraiment tester. Moi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui passent sur de la nutrition, donc il faut tout tester, ouais. Bien avant.
Et t'as déjà pu faire un petit peu les tests sur le L, même il faudra s'alimenter plus, mais donc là tu.
Ouais, mon problème c'est que je mange pas en fait, je mange pas, je bois pas, et là je vais pas avoir le choix, donc faut que je me force. Je vais mettre une alarme, je pense sur mon chrono, je sais pas, mais il faut que je me force absolument.
Ok, on y croit.
Gros défi.
pour la suite. Alors c'est compliqué à imaginer peut-être pour l'instant, mais une fois cet Ironman terminé, est-ce qu'il y a d'autres défis qui peuvent arriver? Est-ce qu'il va y avoir une période peut-être un peu plus calme aussi? Comment on se projette après?
Ouais, j'ai prévu une petite période un petit peu plus calme. Je me suis juste inscrite sur le M du Mans un petit mois après, histoire de, je pense que on sera en pleine forme un mois après. Mais après, non, j'ai rien de prévu. Si une équipe cherche quelqu'un pour les 24 heures du Mans, je suis preneuse. Mais sinon, non, rien de prévu.
Et maintenant, si tu as des conseils peut-être à donner à des personnes qui veulent se lancer dans le triathlon, peut-être leur dire à quel point c'est un sport qui est magnifique.
C'est génial.
T'as la main pour le mot que tu veux.
Franchement, faut pas hésiter, c'est génial, c'est ouvert à tous. Après, il faut faire attention. Aujourd'hui, le triathlon, ça commence à vraiment être à la mode. On voit tous les influenceurs qui se lancent sur des Ironman en premier triathlon. Et moi, je trouve ça vraiment, enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il faut vraiment commencer sur des S, du M, et on monte petit à petit. Je sais que notre tête, elle va souvent plus vite que notre corps. Il faut savoir l'écouter. Mais commencer déjà sur un S, vous allez voir, c'est génial.
Et l'ambiance est belle.
C'est génial. Et l'arrivée est incroyable. On sait qu'on a fini l'effort, c'est fait. Et non, foncez, franchement.
Et j'y repense d'un coup. Une question que les gens se posent peut-être pas forcément, mais le triathlon, c'est beaucoup de matériel, beaucoup de dépenses. Comment on gère ce côté-là? Parce que la course à pied, c'est changer des chaussures régulièrement, quand encore beaucoup. Le vélo, on n'en parle pas vraiment.
Ouais, c'est un sport très cher. Après, aujourd'hui, on a beaucoup de seconde vie. Hein. Moi, je sais que j'ai acheté un vélo de chrono seconde vie. Hein. C'est mon premier, donc je vais pas aller taper dans du 25 000 euros. C'est pas la peine. Et après, moi, pour les chaussures, je sais où aller. Et rapport qualité-prix, c'est les meilleurs. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup papa-maman hein, qui paye sur le reste du matos.
Merci à eux. Eh bien, merci à toi pour cette interview. On va, avant de laisser la main à Mathéo et à Faustin pour nous parler un petit peu du sport international, une information triathlon qui a eu lieu cette semaine. Il y avait à Liévin, les championnats du monde, pas les championnats du monde, une manche des championnats du monde indoor avec notre championne olympique, championne du monde Cassandre Beaugrand qui s'est encore illustrée. Donc pour les gens qui connaissent pas l'indoor, c'est encore un autre format qui est très jeune, j'imagine.
Ouais, il y en a pas beaucoup et en fait c'est intérieur, c'est un triathlon vraiment intérieur.
Et donc au milieu d'une piste d'athlétisme, une piscine de 25 mètres, 200 mètres de natation, 2,8 km de vélo, 1 km de course à pied, donc ça va très 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 vite. Pour les gens qui sont pas adeptes des sports d'endurance à regarder à la télé, vu que c'est un petit peu long, ici ça dure 10 minutes, c'est génial à regarder. Donc voilà. Cassandre Beaugrand qui a gagné la manche, et aussi chez les garçons Antoine Duval qui finit deuxième et Léo Fernandez, non j'ai plus le nom famille, je l'ai pas écrit, mais bon, qui finit quatrième, un autre Français quatrième, voilà.
Bravo,
c'est donc voilà, t'en as déjà pu en faire ou pas du tout? C'est quand même
non, pas du tout. Ouais, et je crois que j'en ai jamais vu, en tout cas ouvert à tout le monde comme ça.
C'est que chez les athlètes professionnels qu'il y a une Coupe du Monde. Ok, merci à toi.
Merci
et
à toi.
Mathéo, je vais te lancer dans ce cas-là sur l'actualité internationale de cette semaine.
Ouais, bon, on va commencer par parler forcément de l'équipe de France qui s'est qualifiée donc pour les demi-finales de la Nations League en venant à bout de la Croatie. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, c'est assez triste. Voilà, après un premier match défait 2-0 là-bas, puis victoire 2-0 et victoire finale au tir au but. Ça a été une rencontre assez intéressante, des rencontres assez intéressantes, plein de rebondissements également. Est-ce que vous avez pu regarder le match, les gars?
Alors, je n'ai pas pu voir la première rencontre, mais de ce que j'ai compris, je n'ai pas raté grand-chose en termes footballistiques. La deuxième, je suis arrivé sur le match à la 60e minute, donc peu après le coup franc de Mickaël Olise. Une très belle fin de match, un match où les Bleus ont fait que pousser. On attendait ce deuxième but pour venir égaliser. il arrive. Maintenant, derrière, je me suis dit, on va encore réussir à pousser, à mettre ce troisième, que même pendant la prolongation. Finalement, on s'est fait peur, séance de tir au but, on sait ce que ça peut donner. On se rappelle une Coupe du Monde en 2022 et une séance qui a été un peu folle. On met les Croates ratent en premier, puis après ça envoie au-dessus. On se dit bon bah c'est fait. Finalement, nous aussi on envoie au-dessus du but et Upamecano à la fin qui vient nous libérer. C'était un match, en tout cas les 60 minutes que j'ai vu du match qui étaient très intéressantes et surtout et très plaisantes à regarder. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir comme ça devant l'équipe de France de football. Donc voilà, un beau match de foot.
Et toi Faustin?
Moi j'ai eu le malheur de regarder le premier match, le bonheur de regarder le deuxième, heureusement. Mais ouais, comme Amaury t'as parlé du deuxième, je vais me coller sur le premier. mais ouais, c'était soporifique, j'ai envie de dire. Vraiment, je m'endormais devant ma télé. Je pense que c'est le duo au milieu de terrain, Guendouzi-Rabiot, qui créait pas beaucoup de jeux, qui n'apportait pas grand-chose. Désolé à Amaury et tous nos supporters marseillais qui nous écoutent, mais je suis bien content de pas les avoir vus sur le terrain le deuxième match. Et puis la Croatie a pas non plus excellé, j'ai envie de dire, dans ce premier match, mais elle n'a pas non plus fait beaucoup d'erreurs. Heureusement que même Mike Maignan sort un penalty au début de la rencontre avec Konaté, qui lui non plus n'a pas été bon. Il est sorti dès la reprise de la deuxième mi-temps et il n'a pas joué du tout au match d'après. Donc heureusement que la France a su réagir et que Didier Deschamps a su ajuster son effectif. On a aussi vu quelque chose d'intéressant avec la rentrée de Désiré Doué, que personnellement j'ai pas trouvé très très impactant. Il a perdu beaucoup trop de ballons pour l'être. Il a quand même sorti deux belles frappes, mais son match n'est pas non plus et pas réussi à mon sens. C'est une première entrée qui n'est pas top, mais il va faire mieux. Il a quand même un gros potentiel parce que Cédric il les passait, mais il oubliait trop que derrière il y avait d'autres défenseurs et que la défense croate se refermait sur lui.
C'est un joueur de système aussi. Après Désiré Doué, c'est aussi la raison. C'est pour ça qu'il a mis du temps aussi à prendre ses marques au Paris Saint-Germain. On verra pour le futur de l'équipe de France. Ça peut être assez intéressant. Mais c'est vrai que globalement, sur les deux rencontres, c'est assez symptomatique de ce qu'on voit depuis très longtemps en équipe de France. Savoir une équipe de France qui peut galérer énormément, qui n'a pas de créateur finalement. Donc l'équipe de France pour faire du jeu, pour faire la transition entre des milieux et une attaque qui d'ailleurs sont assez inégales, notamment sur le match aller. C'est assez compliqué. Maintenant, Olise, sur le match retour, a joué ce rôle de créateur. C'est pas un pur créateur, Michael Olise, mais il a cette capacité quand même, de par sa lenteur et sa capacité technique au-dessus des autres, hein, largement, qu'on avait déjà vu à Crystal Palace, et puis cette année qu'on redécouvre en Ligue des Champions au Bayern, enfin plutôt qu'on découvre, puisqu'il n'avait pas joué avant, Crystal Palace n'étant pas une équipe qui joue la Ligue des Champions pour mon plus grand âme, puisque c'est une équipe qui possède John Textor, voilà, donc je me permets, mais voilà, donc ça reste symptomatique de l'équipe de France. On verra ce qui va se passer contre l'Espagne. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette rencontre contre des Espagnols qui, je vais en parler juste après, mais ont plutôt galéré hein, face aux Pays-Bas?
Ouais, j'ai pu voir quelques bouts de leur match contre les Pays-Bas, que ce soit le premier match ou le deuxième match. Et ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment eu du mal. Je les attendais beaucoup plus décisifs, beaucoup plus impactants et meilleurs que ça au final. Mais aussi, il me semble qu'il y avait quand même quelques absents dans leur effectif. Tu comptes aussi sur en attaque notamment un duo très jeune avec Lamine Yamal et Nico Williams. Donc, j'ai envie de dire, ça va peut-être pas marcher tout de suite, même si ça marche quand même pas mal. Mais dans 5 ans, ce sera la meilleure équipe du monde si elle ne l'est pas déjà aujourd'hui, quoi.
Si on joue comme le match aller contre la Croatie, peu importe l'Espagne qu'on aura en face de nous,
il va s'en prendre 4. Hein.
Ça marchera pas.
C'est sûr.
Donc voilà, une question d'être optimiste. En fait, ça dépend vraiment de quelle équipe de France on a face à l'Espagne. Je parle même pas des joueurs. Hein. Je parle de l'envie qui va y être mise et du jeu proposé. Parce que l'Espagne, on l'a vu à l'Euro, même si là, il y a deux matchs un tout petit peu moins convaincants, on l'a vu à l'Euro, ils ont quand même roulé sur la compétition. Ouais, porté par des jeunes joueurs qui font que progresser et qui sont Yamal a encore été exceptionnel. Je pense que ça va être très compliqué face à l'Espagne. Maintenant, si on propose un match comme au moins la deuxième partie du match, j'ai pas vu la première partie du deuxième match contre la Croatie.
Il y a moyen, pareil, c'était sur la
voilà, il y a moyen de les titiller complètement, parce que
on va voir, ça va être surtout une opposition tactique hein, avant tout aussi, c'est la critique qu'on fait à Didier Deschamps, ce côté très peu tacticien ou vieux tacticien, ouais, en tout cas. Ce qui était aussi le cas donc pour Laurent Blanc, hein, quand il est revenu notamment à l'OL, c'était très compliqué. Même son passage au Qatar avait été vraiment compliqué, parce que pour le football moderne, les idées de jeu ne sont pas forcément adaptées. C'est un peu la critique qu'on fait à Didier Deschamps. On verra si ce sera le cas sur cette rencontre. Mais en tout cas, sur le premier match face à la Croatie, il s'est fait largement dominer par des papis, hein, si je peux me permettre l'expression, avec Modric et puis surtout Perisic, ouais, quand même, qui revient en Europe, enfin qui revient en tout cas dans le cœur principal, ouais, des grands championnats européens, puisqu'il était revenu en Croatie. Il est revenu au PSV, il marque, il met une passe D, il est infatigable à 37 ans.
Il s'est fait pas mal siffler d'ailleurs au match aller en Croatie. Parce qu'il avait quitté Belté à Zagreb, j'imagine.
Ouais. Non, c'était pas Zagreb, c'était un autre club, j'ai plus en tête, parce que ouais, c'est.
Bah, le fait, apparemment, la manière dont il l'a quitté, apparemment, ça avait plus supporter qui sifflait pas mal pour le match aller.
Et bah, il a quand même bien performé. Ouais. Au final, ils ont quand même célébré.
Voilà, ils sont quand même mis debout quand il est sorti à la fin du match.
On va continuer sur la Nations League, sur ce final four, donc qui s'est dessiné, voyant sans doute les quatre meilleures sélections l'emporter. Une bonne chose, hein, quand on sait l'intérêt porté à la compétition. Donc tout d'abord, l'Allemagne a battu l'Italie 2-1, puis a fait un match nul 3-3, 5-4 sur l'ensemble des deux rencontres. Une grosse erreur de la défense, plus qu'apathique, hein, sur le deuxième but allemand de la deuxième rencontre qui a fait le tour des réseaux sociaux. J'imagine que tout le monde l'a plus ou moins vu. Des regrets, hein, pour les Italiens, mais bon, quand Joshua Kimmich affiche ce niveau, c'est difficile d'arrêter l'équipe dans laquelle il se trouve. Un but et quatre passes décisives, il est impliqué sur les cinq buts allemands. C'est assez impressionnant, hein, donc pour celui qui a créé également le plus d'occasions dans les deux rencontres. Un rôle mobile qui lui sied à merveille. Le Portugal aussi, donc de l'infatigable CR7, se déplaçait à Copenhague jeudi dernier en manque d'inspiration, de créativité, et totalement submergé par la vague danoise. Il s'incline 1-0 contre les locaux, un score qui est un petit miracle pour ce Portugal, tant ils ont subi, eux qui recevaient dimanche. Ce qui devait arriver arriva. Le Portugal passe la deuxième, la troisième, la quatrième, puis la cinquième vitesse pour s'imposer 5-2 et se qualifier dans une rencontre où le Portugal a beaucoup encaissé, hein, encore et toujours. Avec tous ses défauts, la Seleção risque d'être le challenger dans ce match face à l'Allemagne. Et puis donc dans l'autre partie de tableau, on l'a dit, l'équipe de France va affronter l'Espagne, mais une Espagne qui a galéré donc face aux Pays-Bas dans deux matchs très disputé. D'abord un nul 2-2 au match aller, puis 3-2 au match retour. Il a fallu des tirs au but pour départager les deux sélections. Une Espagne dominatrice, mais des Hollandais qui avaient, semblait-il, trouvé la solution, jouant leur jeu, profitant des failles de la Roja. Et pourtant, au tir au but, après le manqué de Noah Lang puis d'Yamal, Daniel Malen, le nouveau joueur d'Aston Villa, va tomber sur un Unai Simon très performant, hein, sur les tirs au but. C'est une de ses grandes qualités. Pedri va quant à lui permettre à l'Espagne d'intégrer ce Final Four, futur adversaire des Bleus, qui pourrait tenir donc leur revanche de l'Euro. Voilà, je te laisse continuer sur le basket, Faustin.
Ouais, on va enchaîner avec une autre discipline où le Final Four va arriver dans pas très longtemps, parce qu'on traverse l'Atlantique, et on va pas parler de NBA cette fois, on va parler de basketball universitaire avec la March Madness qui a démarré depuis déjà 4 journées, et c'est pour tous les fans de NBA l'occasion de voir évoluer les prospects des prochaines drafts. Et cette année, le plus regardé, c'est Cooper Flagg, le jeune ailier de 18 ans, à tous les scouts NBA rivés sur lui, et a de grandes chances d'être sélectionné en première position de la draft 2025. Évoluant dans l'équipe de Duke, il a de grandes chances également de remporter le tournoi cette année et de gagner encore plus en popularité. Il a déjà sorti de très belles prestations lors des deux premières rencontres qui ont évidemment été remportées par son équipe. C'est un tournoi qui va très vite, car dès la deuxième journée de la compétition, la moitié des équipes sont déjà éliminées. Actuellement, on est rendu donc au huitième de finale. Et la plus grosse surprise, c'est de voir l'université de l'Arkansas, qui était dixième au seeding de la division Ouest, qui a battu au tour précédent St. John's, qui était deuxième. Ils vont donc affronter il me semble que c'est l'université d'Oklahoma, qui est classée troisième au seeding. L'équipe qui remporte ira donc en quart de finale. Après ces quarts de finale, on aura le fameux Final Four, où toutes les équipes jouent dans le même stade, dans la même salle, plutôt comme on est au basket. Et on verra bien qui sortira vainqueur cette année de la March Madness, sachant que le double tenant du titre, UConn, s'est fait sortir dès le deuxième tour. Oui, c'est ça, dès le deuxième tour par l'équipe d'Alabama.
J'ai une petite question pour toi, Faustin.
Dis-moi.
Pourquoi Duke est tout le temps là-haut? On sait que c'est universitaire, donc ça se régénère presque tous les ans, tous les deux ans. Duke est tout le temps là, tout le temps à des prospects qui finissent très haut classés, voire premier de draft. Il y a une explication?
Déjà, ils ont des meilleurs coachs. C'est Coach K qui a été coach de l'équipe des États-Unis plusieurs fois. Et c'est tout simplement une très bonne formation. Donc les jeunes qui arrivent en université veulent aller à Duke, se proposent d'aller à Duke, et dès qu'une bourse leur est offerte à Duke, ils essaient de la saisir le plus vite possible. Et en général, Duke a quand même des moyens colossaux par rapport à d'autres universités et peuvent se permettre de fournir des grosses bourses aux meilleurs prospects qui sortent du lycée. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'on a les meilleurs joueurs qui arrivent à Duke.
Bah, merci de ta réponse.
Avec plaisir. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant un peu de ce qui se passe, sachant que la finale a lieu le 4 avril. Donc dans deux semaines, on sera fixé sur qui aura gagné cette March Madness.
On va parler cyclisme maintenant. Merci. Avec des nouvelles galères pour le Danois Jonas Vingegaard. Le 13 mars dernier, il est victime d'une chute lors de la cinquième étape du Paris-Nice. Dans une interview révélée hier chez nos confrères danois de BT, il révèle donc avoir de nombreux vertiges, de nausées, des jours après donc cette chute. Une commotion cérébrale pour l'ancien maillot jaune qui manquera le Tour de Catalogne et n'a pas encore décidé si oui ou non il participerait au critérium du Dauphiné en juin. Tout dépendra donc de son programme de reprise de la compétition à quelques mois du Tour de France qui commencera le 5 juillet prochain. Est-ce qu'autour de la table, on peut être potentiellement inquiet justement pour Jonas Vingegaard sur ce Tour de France qui pourrait venir là aussi diminuer? Alors non pas peut-être par rapport à cette chute, même si elle pourrait laisser des séquelles, mais par rapport à tout ce qui lui arrive ces derniers temps, il chute beaucoup le Danois.
Franchement, je sais pas du tout si on peut être inquiet pour lui par rapport au Tour de France, parce qu'il y a encore du temps et une commotion cérébrale aujourd'hui, même c'est jamais bon. Pour le Tour de France, je suis pas sûr que ça va forcément l'impacter énormément. Maintenant, j'espère vraiment qu'on aura Vingegaard et Pogacar à leur meilleur niveau, parce que ça fait deux Tours de France. L'année dernière, c'est Vingegaard qui était déjà pas à son meilleur niveau, qui avait chuté, et Pogacar qui en a profité pour surdominer le Tour. L'année d'avant, c'était l'inverse, Pogacar qui revenait de blessure et Vingegaard qui avait dominé. J'ai vraiment envie de voir un Tour de France où les deux sont à leur meilleur niveau, les deux capables de se battre pendant les trois semaines complètement. J'espère que, en tout cas, ça va aller pour Vingegaard et qu'il va pouvoir prendre tranquillement et arriver en forme au Tour de France. S'il fait pas Tour de Catalogne, c'est pas bien grave. S'il arrive en forme au Tour de France, moi, je suis content.
C'est là aussi tout l'intérêt de leur rivalité. Toi, Faustin, t'en penses quoi, justement, de cette commotion cérébrale et puis de cette potentielle rivalité qui pourrait s'effacer pour laisser Pogacar s'envoler et nous donner un Tour de France qui déjà, en tout cas selon les premières informations qu'on a, sera dominé par le Slovène.
Bah ça, comme on sait que dès la première étape, il y a comme ça un contre-la-montre, il y a des chances qu'il chope le maillot jaune dès la première étape, qu'il garde jusqu'aux Champs-Élysées. Donc si on n'a pas...
Contre-la-montre, c'est l'année prochaine, je crois.
C'est l'année prochaine ?
Il me semble, oui, à Barcelone.
Pour moi. Donc, bref, cette année, il reste quand même de dominer dès le début, peut-être pas dès la première étape, mais dès le début quand même. Donc si on n'a pas un minimum de rivalité, je pense que moi le premier, beaucoup de gens vont décrocher ce Tour de France. Non, Amaury, tu penses pas?
Non, peu importe.
Mais ouais, quand même, si avoir un maillot jaune de A à Z, ça reste moins intéressant, même si faut qu'il y ait un minimum de concurrence. Je sais pas si peut-être on aura une surprise avec, par exemple, Mout van Aert qui pourrait essayer de concurrencer s'il est en forme, s'il est bien entouré. Mais ouais, ce serait très dommage, moi je trouve, de pas avoir un minimum de concurrence pour un Tour de France.
Cette année, elle fait très peur hein, pour le monopole Pogacar sur le monde du cyclisme. On passe à la Formule 1 désormais avec un doublé McLaren ce week-end à Shanghai dans le GP de Chine. Piastri 1, Norris 2 et George Russell qui s'invite donc sur le podium juste devant Max Verstappen. Côté français, Esteban Ocon finit à une très belle 5e place. Isaac Hadjar pointe lui à la 11e position. Et Pierre Gasly a été disqualifié. Coup dur pour Alpine qui n'a toujours marqué aucun point depuis le début de la saison. Gasly avait de l'espoir ce week-end puisqu'il avait bien démarré, cruellement stoppé par les commissaires pour non-respect du poids de la monoplace. Mais ce n'est pas cette disqualification qui a marqué le week-end. Il faut aller derrière les Alpes chez Ferrari, du jamais vu dans l'histoire de la Scudera. Deux pilotes disqualifiés après l'arrivée de la course, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, donc pour voiture non conforme, des détails de poids entre autres qui disqualifient donc les 5e et 6e de la course, d'où la présence d'Ocon dans le top 5. Pour Gasly, un week-end week-end qui commençait bien et qui finit aux portes de l'enfer, donc comme pour les coureurs de chez Ferrari. En Italie, cette nouvelle fait réagir, et pas positivement, vécue comme une humiliation, de la déception et des promesses non tenues. Si dans un communiqué, Ferrari a dit apprendre de ses erreurs et tenter de régler le tir au plus vite, il faudra être rapide, sinon la saison risque d'être longue. Et voilà, ce sera la fin de ce JT.
On a une minute. Je vais ajouter deux petites informations. On parlait cyclisme avant. Il y avait Milan-San Remo ce week-end. Et Pogacar a été battu par Mathieu Van Der Poel. Il a attaqué. Mais Mathieu Van Der Poel a tenu. Et c'est lui qui s'impose finalement sur Milan-San Remo. Et une autre info qui a forcément marqué Faustin ce week-end, c'était en biathlon. Il y avait la dernière journée, le dernier week-end, et Lou Jamono jouait sur la dernière course le titre. Il fallait finir devant Franziska Preuss. Dernier tour, elles sortent toutes les deux en tête. Et malheureusement, à 500 mètres de l'arrivée, le plus terrible possible arrive. Une chute de Lou Jamono dans un petit virage juste avant une montée. Sur une action qui semble un peu anodine, avec un bâton qui vient devant son ski. Et donc Franziska Preuss qui s'envole. Lou Jamono finit troisième de la course et n'aura pas le gros globe de cristal cette année.
Et voilà, c'est bien dommage pour elle. On va vous laisser là. Encore merci à Adèle Louise de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous souhaite...